Le bonheur, c'est ici. C'est ici. D'ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Le bonheur, c'est ici, c'est ici. D'ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.
C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Vous ne vous êtes pas du tout trompé. Et je suis sûr que si le Seigneur a permis que vous ayez cette tranche, ce n'est pas certainement en vain. Au travers de cette émission, le Seigneur nous parle, nous éclaire et nous bénit d'une manière ou de l'autre. Donc, si vous aimez quelqu'un, passez le message. Oui, si vous aimez quelqu'un, passez le message. Installez-vous confortablement, je vous en supplie. Et si c'est possible, ayez un stylo et sur quoi noter. Parce que nous allons encore passer d'agréables moments. Dans la très sainte et bonne présence du Seigneur, au travers de sa très sainte et bonne parole, oui, au travers de la très sainte et bonne parole du Seigneur, nous allons certainement passer d'agréables moments. Installez-vous confortablement. Nous allons parler de Dieu, mais sans faire la publicité d'une religion. Et c'est la particularité de ce rendez-vous. L'une des rares émissions, je le dirai jamais assez, qui parle uniquement de Dieu, sans appartenir à une religion, sans faire la publicité d'une religion, sans vous conduire à une religion. Dans cette émission, ce n'est que la vérité biblique qui est proclamée. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous encourage toujours à avoir un stylo et sur quoi noter. Pour être sûr que ce qui est dit est conforme aux Saintes Écritures, la Bible, puisque au centre de cette émission, il n'y a que la Bible et le Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez, recevez les sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que vous êtes nombreux à écouter cette émission dans vos véhicules, dans vos lieux de service, dans vos bureaux, même dans les prisons. Où que vous soyez, recevez les chaleureuses salutations dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ et rassurez-vous, ce moment que nous allons passer ensemble vaut mieux que mille ailleurs. Parce que le thème qui va nous intéresser en ce jour, c'est qui peut se comparer à Jésus-Christ en compassion. Oui. Depuis un certain temps, il y a un grand chapitre qui a été ouvert, qui peut se comparer à Jésus-Christ, qui est comme Jésus-Christ. Et il y a des sous-thèmes qui sont greffés à ce grand thème. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce sous-thème, qui est comme Jésus-Christ en compassion. Qui peut se comparer à Jésus-Christ en compassion? Qu'est-ce que c'est que la compassion? Un thème très simple pour résumer dans le sens biblique, c'est tout simplement le fait d'avoir pitié. En fait, je résume en français très simple. Oui, lorsqu'on a pitié d'une personne, pitié de quelqu'un, on peut parler de la compassion. Donc, qui peut avoir pitié des êtres humains comme Jésus-Christ? C'est le thème. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce nouveau jour, ta divine protection et toutes les grâces infinies que tu ne cesses de répandre sur nous jour après jour. Tu es vivant et tu agis encore jusqu'à présent. Tu es tout puissant. Merci pour ce magnifique rendez-vous. Merci pour ces multitudes qui sont à l'écoute, qui vont être bénies, éclairées, délivrées, guéries, restaurées en ton nom au travers de ta très sainte et bonne parole. Parce que je n'ai point honte de l'évangile. Ton évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci de donner toi-même de la bonne compréhension à ces multitudes qui sont à l'écoute. Merci d'ouvrir toi-même les entendements. Merci Seigneur Jésus, tout ce que tu vas faire à toi, toute la gloire, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. 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 D'ici là, je vais vous communiquer les différents numéros qui vous permettent de réagir par SMS pendant l'émission et appeler après l'émission comme beaucoup le font habituellement. Sachez que lorsque vous envoyez vos messages, bien lorsque vous appelez même, vous n'êtes pas en train d'appeler une personne qui va vous parler de la religion. qui va vous amener dans sa religion. Je n'ai pas de religion à vous proposer, je vous en supplie. Je vous parle uniquement de Dieu et de la Bible. C'est mon principe que j'ai l'habitude de rappeler encore, encore et encore. Parce que nous avons été tellement habitués aux religions, on en crée tous les jours, et malheureusement, la religion ne sauve pas. Si la religion pouvait sauver, c'est que la planète Terre est déjà sauvée, parce qu'il y a tellement de religions sur Terre. Et il y a les multitudes qui fréquentent les milieux religieux tous les jours, mais sont toujours liés par les forces des ténèbres, liés par le mal, liés par le péché. Ça veut dire que la religion ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Nous avons vu cela la dernière fois. Il est le sauveur. C'est lui, celui qui sauve. Et je suis là pour vous aider à être connecté à ce Jésus qui est le sauveur. Je ne suis pas là pour faire la publicité d'une religion. Je ne suis pas là pour faire la publicité d'un homme qui qu'il soit. Oui, je ne suis pas là non plus pour faire ma propre publicité également. Dis sans plus tarder, nous allons entrer dans les Saintes Écritures. Qui est comme Jésus-Christ? Qui peut se comparer à Jésus-Christ en compassion? Qui peut avoir pitié des êtres humains que nous sommes? Comme Jésus-Christ. Nous allons d'abord nous intéresser à ce verset 25 de Exode 2. Nous sommes là dans l'Ancien Testament. Je cherche à partir d'ici et je vais lire pour nous tous. Exode, le deuxième livre des Saintes Écritures, la Bible, chapitre 2, le verset 25. À partir d'ici, je vais lire pour nous tous. Il est écrit. Je lis. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Nous sommes là dans l'Ancien Testament. Israël s'est retrouvé dans une situation qui n'était pas du tout bonne. Israël s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Et c'est dans cette situation où ils étaient exploités. Traités comme des esclaves. Ils travaillaient très dur. Et la vie n'était pas facile pour eux. Et les Israéliens ont beaucoup travaillé pour les Égyptiens. Oui, ils ont beaucoup travaillé pour les Égyptiens et ils ont contribué à bâtir beaucoup de choses en Égypte. Peut-être même les pyramides. Et ce n'était pas vraiment facile. Lorsqu'on parle de l'esclavage, surtout à cette époque, ce n'était pas vraiment facile. Mais la Bible nous dit que Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc Dieu a regardé Israël dans cette condition d'esclavage et il a eu pitié. Il a eu pitié des enfants d'Israël. C'est pour cette raison qu'il va mettre en place un plan de rédemption, un plan de libération. Et là, il va trouver son homme dans la personne de Moïse. Qu'il va envoyer en mission pour délivrer Israël de l'esclavage. Et ce qui a motivé Dieu, c'est quoi? La compassion. Il a eu pitié des enfants d'Israël. Donc, lorsqu'on parle du Dieu vivant, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a pitié de ses créatures. Il a pitié de ses enfants. Beaucoup ne le savent pas. C'est pour cette raison que j'ai décidé comme cela de nous entretenir sur cet aspect de la personne de Dieu, également de la personne de Jésus. Tous les attributs de Dieu, Jésus-Christ les possède. Nous avons commencé par l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous allons voir également que Dieu est un Dieu de compassion. Jésus-Christ également, il a les mêmes attributs que Dieu. Il est également un Dieu de compassion, un Dieu qui a pitié des êtres humains, une personne qui a tellement pitié. Qui peut se comparer à lui à ce niveau? Les Saintes Écritures et la Bible sont bien placées pour nous répondre, bien entendu. Et nous allons nous intéresser également à ce verset 3 de Deutéronome. Nous sommes tous dans l'Ancien Testament. Après le deuxième livre qui est Exode, nous allons nous intéresser au cinquième livre qui est Deutéronome dans l'Ancien Testament. Parce que c'est que beaucoup ne connaissent pas la Bible et n'ont pas l'habitude de lire la Bible, c'est pour cette raison que je donne tous ces détails-là. Puisque nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas encore arrivés dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. J'ai dit Deutéronome, chapitre 30, à son troisième verset. Qu'est-ce que nous lisons? Alors, l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples. Il te rassemblera au milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 30, verset 3. Ici, Moïse, qui est en train de tenir un discours d'adieu aux enfants d'Israël, parce que après ce discours, Dieu va l'appeler et il ne doit pas continuer la route pour la terre promise avec les enfants d'Israël. Et il donne certaines paroles qui vont un peu dans le sens des promesses, des paroles prophétiques. Dieu était en train de dire à Israël, lorsque vous allez pécher contre moi, lorsque vous allez me désobéir, ce qui va arriver de temps en temps, c'est que vous serez amenés en captivité, c'est-à-dire on va vous déporter dans un pays étranger ou bien dans des pays étrangers. On va vous amener comme des captifs à cause de la désobéissance, à cause du fait que vous avez négligé ma parole. Mais le Seigneur, il promet quand même à Israël que malgré tout cela, malgré le fait que je vais vous envoyer par la main des peuples en captivité, lorsque vous allez vous retrouver même dans des pays étrangers à cause de la désobéissance, je ne dois pas vous oublier. J'aurai compassion de vous, je vais avoir pitié de vous. Et je vais faire en sorte que vous reveniez dans votre pays. C'est ce que Dieu dit ici, par la bouche de Moïse. Avant que ça n'arrive même, donc Dieu promet déjà même que dans sa compassion, du fait qu'il a pitié, quand ça va même arriver, voici ce que je veux faire. Donc nous voyons que le Dieu de la Bible, c'est vraiment un Dieu de compassion. Un Dieu qui a pitié de ses créatures. Un Dieu qui a pitié de ses enfants. Et c'est vraiment merveilleux. Si vous venez de vous connecter à l'instant, bienvenue à vous. Nous sommes en train de nous intéresser à ce thème qui peut se comparer à Jésus-Christ, qui est comme Jésus-Christ en compassion, en miséricorde, ou bien qui peut avoir pitié comme lui. Et nous allons évoluer. Nous sommes tous dans l'Ancien Testament. Comme promis, je vous communique rapidement ces différents numéros avant de continuer. Rapidement relever ces différents numéros qui vous permet de réagir par SMS pendant l'émission et appeler après l'émission. Le 696 36 25 40. 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. Je reprends ces différents numéros. Le 600 77 61 93 77. Ou le 696 36 25 40. Sans protocole, vous envoyez vos messages pendant l'émission, mais après l'émission, vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Et c'est sans protocole. Il y a également deux pages Facebook à votre disposition. Deux pages Facebook. Entre autres, Rodrigue.Ndjenchi et Jésus-Christ est l'ultime solution. Visitez ces différentes pages Facebook, vous allez y retrouver des choses intéressantes et édifiantes. Et il y a également un site internet à votre disposition. Le site c'est www.jesuschrist.org. pasteurrodrigue.com. Visitez ce site www.pasteurrodrigue.com et téléchargez tout ce qui vous intéresse en brochure, en audio et même en vidéo. Et tout cela gratuitement. Ce site, il est en deux versions. Il y a une version pour mobile et une version pour ordinateur. Donc, lorsque vous l'ouvrez à partir de l'ordinateur, ce n'est pas la même version que vous l'avez sur votre téléphone. Cette précision en vaut la peine. Et nous allons nous intéresser à ce que le psaume 116, verset 5, nous dit. Je cherche à partir d'ici et je lis pour nous tous. Je ne prends pas les appels pendant l'émission. Oui, pendant l'émission, je ne prends pas les appels. Donc, n'insistez pas avec les appels. Ce sont les messages uniquement qui sont reçus pendant l'émission. C'est après l'émission que vous pouvez appeler. Psaume 116. Je vais lire à partir d'ici pour nous tous le verset 5. Je dis bien le psaume 116. Pour ces personnes qui relèvent, et c'est le verset 5 qui nous intéresse. C'est vrai que selon les versions, vous pouvez trouver les petits décalages dans vos Bibles, mais ce n'est pas grave. Le décalage n'est pas tellement important, c'est tout simplement un verset. Oui, donc si vous ne trouvez pas dans votre Bible le verset 5, cherchez juste le verset qui suit ou le verset qui précède. Vous allez avoir le verset qui nous intéresse présentement. Je lis à partir d'ici, pour nous tous. Verset 5 du psaume 116. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Amen. 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 L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Amen. Donc le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui a toujours le gourdin en main, prêt à frapper sur la tête de quiconque fait une erreur. C'est Dieu qui est prêt à exterminer les gens, à pousser les gens à tuer les semblables. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ah oui. Il dit bien ceci. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas ce Dieu qui a un gros bâton en main, prêt à frapper sur la tête de quiconque fait une erreur. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui est prêt à pousser ses enfants, ses disciples, à aller assassiner les autres en son nom comme cela. Le Dieu de la Bible n'a rien à voir avec ce Dieu. Oui. La Bible dit plutôt que ce Dieu est plein. Bien qu'il soit un Dieu juste, il est plein de compassion. De Dieu est en même temps juste et en même temps plein de compassion. Donc Dieu, il est entre les deux. La justice et la compassion. En même temps, il est juste, en même temps, il a pitié. Voilà le Dieu de la Bible. Et vous deviez le savoir. Et si vous êtes au courant, c'est à vous maintenant de savoir profiter de la compassion de Dieu. Donc vous pouvez facilement bénéficier de la compassion de Dieu dans votre vie. Vous pouvez facilement attirer la pitié de Dieu sur votre vie, si vous le voulez. Parce que la compassion, ça fait partie de sa nature. Et dans 2 Samuel, chapitre 24, il est écrit ceci. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 14. Je vais lire à partir d'ici pour nous tous. Il est écrit. David, le roi David, répondit à Gad. Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel. car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Amen. Je tiens à signaler que cette émission, vous pouvez également la retrouver après sur Facebook. Oui, vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook. J'ai dit tout à l'heure que j'ai deux pages Facebook à votre disposition, Rodrigue Ndjenji et Jésus-Christ est l'ultime solution. Le roi David ici se retrouve dans une situation délicate. Il a posé un acte que Dieu n'a pas du tout apprécié. Et Dieu lui a clairement dit, je vais te châtier. Je vais te punir à cause de ce que tu as fait. Et je te fais deux propositions. Soit c'est moi-même en personne qui te châtie, soit je te livre entre les mains des hommes, entre les mains des ennemis. Donc c'est à toi de choisir la punition. C'est dans ce contexte que David dit, je suis dans une angoisse, mais je sais ce que je dois faire, je sais le choix qu'il me faut opérer. Je préfère plutôt tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Parce que je sais que, quand bien même Dieu va me punir, il va me châtier, je sais qu'il est un Dieu de compassion. C'est ce qu'il dit ici, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc David savait que les hommes parfois sont sans pitié. Les hommes sont parfois sans cœur. Le roi David connaissait l'homme. Il connaissait le cœur de l'homme. Il a dit que Seigneur, je ne veux pas que tu me livres entre les mains des hommes. Je veux tomber plutôt entre tes mains. Toi-même, charge-toi de mon sort. Toi-même, punis-moi. Je sais que quand bien même tu vas me punir, tu es un Dieu immense en compassion. Passion. Alléluia. C'est merveilleux. Donc David connaissait qui était Dieu. Il connaissait la nature de Dieu. Et si les hommes parfois sont sans cœur, sans pitié, imaginez alors les démons et le diable. Là c'est le terminator comme on le dit au quartier. Si vous tombez entre les mains du diable, Jésus-Christ a été clair. Dans Jean 10, verset 10, il va dire le diable, c'est un voleur. Il vient pour faire quoi? Pour détruire, voler et égorger. Donc lorsque vous tombez entre les mains du diable, il va vous égorger. Il va vous détruire, il va vous voler. Donc, beaucoup de gens vivent ces choses sur terre. Beaucoup de gens sont égorgés. Lorsqu'on égorge par exemple un animal, l'animal ne meurt pas sur le champ. L'animal se vide d'abord progressivement de son sang. C'est après un certain temps maintenant que l'animal meurt. Donc c'est la même chose que le diable fait. Il vous égorge. Vous n'êtes pas encore mort, mais il sait que vous allez mourir. Vous êtes en train de mourir à petit feu. C'est pour cette raison que vous devez faire attention. Avant de mourir complètement, tournez-vous vers le Christ. Il n'y a que lui pour arrêter le saignement que le diable a provoqué dans votre vie. Le saignement d'ordre spirituel, le saignement d'ordre intellectuel, d'ordre moral, d'ordre financier, d'ordre matériel, d'ordre émotionnel et ainsi de suite. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est capable d'arrêter ce saignement que l'ennemi de vos âmes, le diable, a provoqué dans votre vie. Beaucoup n'ont pas de paix, beaucoup n'ont pas de joie. C'est normal parce que le diable est venu à voler les joies, à voler les paix. Beaucoup vivent dans des misères insupportables parce que le diable a volé toutes les bénédictions. Mais Jésus-Christ va dire, après avoir dit que le diable est venu pour voler, égorger et détruire, moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen, amen, amen. Donc, tombez que entre les mains de Dieu, tombez entre les mains du Seigneur Jésus, ne laissez pas que le Dieu qui vous a créé vous livre plutôt entre les mains de l'ennemi, de vos âmes, le diable, ou entre les mains des hommes. Ça ne sera pas joli pour vous. Et si vous continuez l'histoire de David, il avait bien fait de dire à Dieu, je préfère que ce soit plutôt toi qui me châtie, qui me punis. Lorsque Dieu va commencer à châtier Israël, ça va être terrible, terrible. L'ange qui a été chargé de faire ce travail, il était vraiment déterminé. Il y avait déjà des cadavres en Israël. À un moment donné, Dieu lui-même a dit à l'ange, arrête maintenant, arrête, arrête, ne continue plus. Vous voyez, donc, David avait raison de dire, je préfère tomber entre les mains de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va demander à l'ange d'arrêter le massacre. C'est vraiment merveilleux. Qui peut se comparer à notre Dieu, le Dieu de la Bible, le véritable Dieu, le Dieu vivant, qui a créé toutes choses et qui vous a créé? Qui peut se comparer à lui en miséricorde, en compassion? Qui peut avoir pitié comme lui? Personne, personne. Donc je vous encourage vraiment à faire confiance à ce Dieu. Faites confiance à ce Dieu. Il aura toujours pitié de vous. Même s'il vous punit, si vous êtes sincère dans votre conversion, dans votre repentance, il va avoir pitié de vous. Peu importe ce que vous avez fait. Là où l'homme ne peut même pas avoir pitié de vous, là où personne ne peut avoir pitié de vous, Dieu, il peut avoir pitié de vous. Oui. Donc je vous encourage vraiment à faire confiance au Seigneur. Ouvrez-lui entièrement la porte de votre cœur. Acceptez-le dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. De tout votre cœur, vous allez voir qu'il va avoir pitié de vous. Alléluia. Si vous venez de vous connecter à l'instant, bienvenue à vous. Ce message qui dit, vous prêchez de manière sûre. Gloire à Dieu. C'est un message qui vient d'arriver. Vous prêchez de manière sûre. Merci pour votre message. Vous pouvez aussi réagir par SMS si vous n'avez pas pu prendre ces numéros tout à l'heure. Je vous les communique une fois de plus rapidement avant de continuer. Le 696-36-25-40. Je dis bien 696-36-25-40. Et le deuxième numéro, c'est le 677-61-93-77. Je reprends ce deuxième numéro. Le 677-61-93-77. Par ce numéro, vous envoyez vos messages sans protocole pendant l'émission. Et après l'émission, vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Cet autre message, je l'ai avant de continuer. Vous prêchez de manière sûre et convaincante, et pourtant, vous n'avez pas de religion. Comment expliquez-vous cela? C'est signé Nana Abanganti. Ce message qui dit, vous prêchez de manière sûre et convaincante, et pourtant, vous n'avez pas de religion. Comment expliquez-vous cela? Ça veut tout simplement dire que la parole de Dieu, la vérité biblique, ça n'a rien à voir avec la religion. Les Écritures, la Bible, n'a rien à voir avec la religion. Tout simplement. Ça veut aussi dire que vous pouvez être un bon chrétien sans être abonné à une religion. Et pour me faire comprendre simplement et rapidement, lorsque vous allez vous retrouver devant votre Créateur, pour lui rendre par exemple des comptes par rapport à votre vie sur terre, il ne doit pas vous poser la question, mais quelle était votre religion? À quelle religion appartenez-vous sur la terre? Qu'est-ce que Dieu va faire avec votre religion? C'est votre cœur, votre vie qui l'intéresse. Qu'avez-vous fait de votre vie sur terre? Point bas, vous n'allez pas dire, j'étais catholique, j'étais protestant, j'étais témoin de Jéhovah, j'étais adventiste, j'étais pentecôtiste. Dieu va dire, qu'est-ce que je veux faire avec cela? Beaucoup appartiennent à des religions, mais n'ont pas foi en Dieu, n'ont pas le Seigneur dans les cœurs, dans les vies. Et je vais prendre encore un exemple simple pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque vous vous tenez, par exemple, en route, en général, les dimanches, prenons par exemple les dimanches, ou bien les périodes de fêtes. Regardez-vous même les multitudes qui vont dans des milieux religieux. Mais les mêmes personnes qui vont dans les milieux religieux, parfois rentrent au quartier. Tous les problèmes qu'il y a dans le quartier, la plupart du temps, ce sont eux qui sont à l'origine. Beaucoup sont même assis à des premières places dans les religions, mais sont des sorciers. Beaucoup chantent dans des chorales. mais sont des menteurs professionnels. Je prends des exemples simples que tout le monde peut comprendre. Beaucoup ont même des postes dans des milieux religieux. Mais il faut voir ce qu'ils font au quartier. On se plaint d'eux, ce sont des calomniateurs. Ils font des coups bas. J'irai encore même plus loin. Dans certaines églises, beaucoup s'assient au premier rang, donnent des grosses enveloppes, mais sont les détourneurs de fonds publics. Je suis obligé de dire la vérité. C'est pour dire que la religion ne sauve pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Donc la religion ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est la foi en Dieu qui sauve. Et j'ai compris ces choses il y a très 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 longtemps. C'est pour cette raison que je n'ai pas besoin de parler de la religion aux êtres humains, parce que je sais qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin tout simplement de la parole de Dieu et de Dieu dans leur vie. Quand vous avez déjà Dieu dans votre cœur, quand vous avez déjà foi au Seigneur, maintenant vous avez une vie transformée. Même si vous appartenez à un groupe de croyants, en ce moment-là, votre foi a un sens. Ce n'est pas ce groupe qui vous sauve, ce n'est pas cette religion qui vous sauve, mais c'est votre foi qui vous sauve. Parce que la religion ne sauve pas. Donc, voilà ce que je peux dire pour répondre à cette préoccupation, à savoir, je n'appartiens pas à une religion, et pourtant, je prêche la parole de Dieu de façon sûre et de façon convaincante. Et pendant que j'étais en train d'expliquer, il y a un message qui est venu pour répondre également à cette préoccupation. Je réponds à son message, l'église ne sauve pas. Voilà, donc c'est un autre message qui est venu également pour compléter ce que j'étais en train de vous expliquer. L'église ne sauve pas, ou bien la religion ne sauve pas. Voilà, ça c'est le message qui vient d'arriver également. Si vous venez de vous connecter, bienvenue à vous. Nous sommes en train de nous intéresser à un thème dans le cadre de cette émission qui parle de Dieu sans faire la publicité d'une religion. Qui peut se comparer à Jésus-Christ, qui est comme Jésus-Christ en compassion, qui peut avoir pitié comme lui. Et nous allons maintenant entrer dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir Jésus-Christ à l'œuvre. Nous allons nous intéresser à ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 9. Le verset 36, je vais chercher à partir d'ici et je vais lire. Nous sommes dans le Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 9, verset 36. Il est écrit, à partir d'ici, je me charge de lire pour nous tous. Voyant la foule, j'ai raccourci l'histoire, bien entendu, faute de temps, on ne peut pas lire tout le texte. Si on commence au verset 35, il est écrit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Maintenant le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen, amen. La Bible nous dit ici que lorsque Jésus-Christ il était sur terre, il parcourait les villes et les villages et il enseignait, il prêchait la bonne parole du Seigneur. Et il voyait également autour de lui la foule. Il y avait les multitudes. Mais lorsqu'il a pris la peine d'observer ces multitudes, il comparait ces multitudes à des brebis qui n'ont point de berger, dont des personnes abandonnées à elles-mêmes. Ça, c'est un constat que Jésus-Christ fait. Donc, il regarde les gens, il regarde les visages, il regarde comment les gens sont frustrés, misérables, malheureux, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et la Bible nous dit, Jésus est touché. Il est touché, il est ému. Quand on dit être ému, donc il est vraiment touché dans son fort intérieur. Il est ému de compassion. Et il va dire à ses disciples maintenant au verset 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a tellement de gens qui souffrent sur la terre, qui ont besoin d'écouter la bonne parole, la bonne nouvelle, qui ont besoin d'être guéris émotionnellement, d'être guéris sentimentalement, d'être guéris physiquement, d'être guéris moralement, d'être guéris intellectuellement, d'être guéris spirituellement, d'être guéris financièrement et matériellement. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers pour les aider à sortir de cette situation. Et Jésus-Christ, non seulement il dit ces choses à ses disciples, lui-même il ne croise pas les bras. La Bible nous dit, à cause de cette compassion qu'il animait, à cause du fait qu'il avait tellement pitié de cette foule qui était comme des brebis sans berger, il va les enseigner beaucoup de choses et surtout, il va les guérir, il va les délivrer. Ah, c'est vraiment merveilleux. Qui peut se comparer à Jésus-Christ en compassion? Qui peut avoir pitié? Qui peut avoir pitié comme Jésus-Christ? Oui, qui peut avoir pitié de vous? Qui peut avoir pitié des êtres humains comme Jésus-Christ? Lorsque nous allons finir, vous-même, vous allez répondre à cette question. Nous allons rester dans Matthieu. Cette fois-ci, nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Nous allons nous intéresser au verset 14, que je vais lire également à partir d'ici pour nous tous. Il est écrit: quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Amen, amen, amen. Voilà Jésus qui, à peine sorti de la barque, il est sur la barque, sur l'eau. À peine qu'il foule ses pieds au sol, il voit les multitudes. Et ces multitudes sont malades. Qu'est-ce que Jésus fait? Il les guérit. Jésus-Christ ici n'exploite pas la misère de ces gens comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on exploite la misère des êtres humains. Ah oui. Regardez autour de vous. Beaucoup de personnes sont déjà suffisamment malades. Parfois, pire encore, ces personnes n'ont même pas de moyens pour se soigner. Mais même jusque-là, il y a beaucoup qui ont toujours le courage d'exploiter même la misère des êtres humains, d'une manière ou de l'autre. C'est vraiment terrible. C'est terrible, c'est terrible. Même dans les hôpitaux. Quand vous allez à l'hôpital, si vous n'avez pas de l'argent, ne comptez pas qu'on va vous aider facilement. Parce que c'est comme cela que le monde fonctionne. C'est un système qui a été déjà établi comme cela. Si vous n'avez pas d'argent, pas de soins, vous pouvez même mourir facilement dans un hôpital. Tout simplement parce que vous n'avez pas de l'argent sur vous. Parfois, on amène les gens dans les hôpitaux en cas d'urgence, même. On ne prend pas soin de cette personne qui est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'argent, il n'y a personne pour déposer une caution. Donc il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de pitié. Je ne dis pas qu'on doit soigner les gens gratuitement, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste pour vous faire comprendre que Jésus-Christ, quand il était en face des malades, il ne demandait pas de l'argent pour les soigner. Mais aujourd'hui, personne ne peut faire cela facilement. C'est pour que vous puissiez comprendre le sens de la question. Qui est comme Jésus-Christ en compassion? Par exemple, devant les gens qui sont en détresse, particulièrement dans le cadre des maladies. C'est un point que je prends, qui peut se comparer à Jésus-Christ. En compassion, qui peut avoir pitié comme Jésus-Christ. Nous allons rester dans Matthieu. Cette fois-ci, nous allons aller dans Matthieu chapitre 15. Le verset 32. À partir d'ici, je lis pour nous tout ce qui est écrit. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému. Jésus ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne les manquent en chemin. Amen. Jésus-Christ, à un moment donné, il se rend compte que ça fait plus de 3 jours que les gens le suivent. Parce que les gens voulaient écouter la bonne nouvelle qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. les paroles de grâce, les paroles d'encouragement, les paroles du salut, les paroles de délivrance. Les gens avaient soif. Et voilà que certains ont fait même 3 jours auprès de Jésus. À un moment donné, c'est Jésus lui-même qui s'inquiète de leur sort. Il dit à ses disciples, ça fait 3 jours. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi eux qui n'ont pas mangé. Et si je les renvoie dans cette condition, beaucoup vont tomber en route. Ils ne vont même pas arriver chez eux, puisqu'ils n'ont plus de force. Mais il faut faire quelque chose. Il faut leur donner aussi à manger de la nourriture physique, en dehors de la nourriture spirituelle qu'ils ont mangée durant ces 3 jours. Il leur faut maintenant de la nourriture physique. Et c'est suite à cela maintenant que Jésus-Christ va être obligé de faire un miracle. Multiplier les pains et les poissons pour nourrir ces multitudes-là. Donc c'est la compassion. C'est parce que Jésus-Christ avait pitié des gens qu'il a fait ce miracle. Il n'a pas fait ce miracle pour impressionner les gens. Jésus-Christ n'était pas un faiseur de miracles pour impressionner les gens et amuser la foule. C'est la pitié qui l'a animé, qui l'a poussé. Puisqu'ils étaient dans un désert où trouver de la nourriture, ce n'était pas facile. Et surtout pour nourrir une telle foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il a fallu que Jésus-Christ fasse un miracle. Alléluia! Et gloire à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se déclarent être des serviteurs de Dieu, être des pasteurs, des bergers, des prophètes, que sais-je encore. Mais qui exploitent plutôt les brebis, qui veulent plutôt même soutirer ce que les brebis ont déjà pour ajouter sur ce qu'ils ont déjà. Beaucoup parfois se vantent d'être trop riches. Et que s'ils prient pour vous, vous allez devenir également riche. Il suffit maintenant de venir avec, par exemple, 100 000 pour qu'ils prient pour que vous ayez 1 million. Ces bandits, ces voleurs, ils disent qu'ils sont riches et qu'ils peuvent vous bénir pour que vous deveniez aussi riches. Mais même le peu que vous avez, ils prennent. Ça, ce sont des bandits, ce sont des escrocs. Ah oui! Beaucoup sont des mercenaires, beaucoup qui se disent être des bergers, des pasteurs ne sont que des mercenaires. Ils n'ont pas pitié des gens. Oui, ils n'ont pas pitié. Parfois, il y a une grande mère qui a même de la peine à acheter son pétrole et son huile, mais on prend même le peu qu'elle a. On la manipule, on récupère même le peu qu'elle a pour acheter l'huile ou le pétrole. Ces gens n'ont pas pitié. Ah oui, il y a certains que même si vous allez passer toute votre vie à ne rien manger, mais pourvu que vous ameniez seulement à l'église, il faut remplir le magasin du pasteur. Pendant ce temps, vous qui êtes en train de remplir le magasin du pasteur, est-ce que vous-même vous mangez correctement chez vous? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jésus-Christ ne se comportait pas de cette façon. Il avait plutôt pitié. Quand il voyait les gens qui avaient faim, il avait pitié. Il ne se limitait pas seulement à avoir pitié. Il faisait quelque chose pour sortir les gens qui le suivaient, que ce soit de leur maladie, que ce soit de leur famine, qui peut se comparer à Jésus-Christ, qui est comme Jésus-Christ en compassion, qui a pitié des êtres humains, qui a pitié de nous, comment Jésus-Christ. C'est la question qui nous est posée au travers de ce thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Nous allons rester dans les Saintes Écritures, la Bible. Nous allons rester également dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu, chapitre 20, le verset 34. À partir d'ici, je vais lire pour nous tous le verset 34 de Matthieu chapitre 20. Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen, 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 amen. J'ai raccourci l'histoire, bien entendu. Ici, il est question des aveugles qui viennent voir Jésus. Et Jésus se retrouve devant ces aveugles. Il les regarde. La Bible dit, il est ému de compassion. Et cette compassion pousse Jésus à toucher leurs yeux. Et aussitôt, il retrouve la vue et le sourire. Amen, amen, amen. Voilà des aveugles qui retrouvent la vue, tout simplement parce que Jésus a compassion d'eux. Alléluia. Et Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut aussi avoir pitié de vous. Il peut avoir pitié de vous. Si et seulement si vous pouvez vous tourner vers lui. Si et seulement si vous pouvez vous jeter à ses pieds. En disant, Seigneur, je comprends maintenant qu'il n'y a personne qui peut avoir pitié de moi si ce n'est que toi. Personne ne peut se comparer à toi en compassion, en miséricorde. Tu es unique. Tu es la seule personne qui a véritablement pitié de nous. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme en détresse. Aie pitié de mon âme qui est en train de filer tout droit à la perdition. Je ne veux pas quitter cette terre dans cette condition de perdu. Aie pitié de moi. Sauve mon âme du jugement éternel, de l'étang de feu. Sauve mon âme de la perdition. Sauve mon âme de l'étang de feu à cause de ta miséricorde. Pas parce que je mérite, mais à cause de ta miséricorde, à cause de ta compassion. Aie pitié de moi, sauve-moi. Criez de tout votre cœur et Jésus-Christ aura pitié de vous et il vous sauvera. Il est le sauveur. Alléluia. Et il sauve quiconque se tourne vers lui avec foi. Et peu importe la situation dans laquelle vous êtes, criez au Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme en disant, Seigneur, j'ai entendu. Dans ta parole, c'est clairement écrit. Tu es un Dieu de compassion, de miséricorde. Tu as tellement pitié de tes créatures. Aie pitié de moi. Sauve-moi. Sauve-moi de cette situation. Et vous verrez que dans les jours à venir, le Seigneur, il va faire quelque chose pour vous. Merci Seigneur Jésus. Tu es vivant. Tu es tout puissant. Et ta parole est vraie. Ta parole est la vérité. Personne ne peut se comparer à toi en compassion. Tu es la seule personne qui a vraiment pitié de tes créatures. Seigneur, je prie que tu aies pitié de toute personne qui est à l'écoute présentement, qui a foi en toi, qui croit que ta parole est la vérité et que toi-même tu es la vérité. Seigneur, peu importe la situation dans laquelle cette personne se trouve, Seigneur, que les choses changent positivement. Que les choses changent positivement, peu importe. Même si c'est une situation de maladie incurable, même si c'est une situation, Seigneur, de détresse émotionnelle, de détresse sentimentale, des détresses psychologiques. Seigneur, peu importe la situation. Même si c'est une situation de misère financière, de misère morale, Seigneur, change la situation de cette personne à cause de ta miséricorde, parce que tu as pitié. Pas parce que ces personnes méritent forcément, mais sur la base de ta grâce, de ta compassion. Fais quelque chose pour ces personnes, et que dans les jours à venir, que ces personnes puissent témoigner que tu es vraiment un Dieu de compassion. Tu es un Dieu qui a pitié de nous. Et dans ta pitié, tu fais beaucoup de choses pour nous. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus, parce que je sais que tu vas agir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Quand tu dis, tu accomplis. Et tu es accompli également, Seigneur, des prodiges, des miracles, là où ta parole est proclamée pour soutenir, Seigneur, ton évangile. Qu'il en soit ainsi. Sur toute la surface de la terre, bénis quiconque, Seigneur, a foi en ta parole. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen, amen. Seigneur, aie également pitié de notre nation et aie pitié de cette ville et pitié de ce département. Merci pour tout ce que tu vas faire sur la base de ta compassion, sur la base de la pitié que tu as envers nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et vous qui êtes dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les maisons, abandonné à vous-même, ne vous en faites pas. Avec le Seigneur Jésus-Christ qui est un Dieu de compassion, ça va aller. Je dis bien que ça va aller avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que non seulement il a pitié, il a également suffisamment de moyens pour vous sortir de votre situation. Parce qu'il n'est pas limité comme les hommes. Alléluia et gloire à son Saint-Nom. Vous êtes vraiment bénis, vous qui aimez la vérité biblique, et restez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sentez-vous libre, même après cet entretien, après cette émission. Si vous avez des préoccupations, sans protocole, je suis à votre disposition. Si vous voulez savoir davantage un certain nombre de choses, entre autres, comment être un chrétien véritable, comment grandir dans sa foi, peu importe vos préoccupations, je suis là pour vous, et je ne vous conduis pas à une religion, je ne vous amène pas dans une nouvelle religion, vous n'en avez pas besoin, vous avez besoin juste de Dieu et de sa parole dans votre vie. Donc sentez-vous libre, je suis à votre disposition, et c'est sans protocole, c'est sans protocole. Voilà, fidèle auditeur, fidèle auditrice et téléspectateur, téléspectatrice, parce qu'il y a également des multitudes qui vont entrer en contact avec ce message sur ma page Facebook qui est en vidéo. Il ne me reste qu'à vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez jamais ceci. Le vrai bonheur ne se trouve qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, vous êtes déjà béni. Et si vous demeurez en Jésus, vous allez demeurer béni. Ah oui, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Alpha et Omega. Merci Prince de Paix. Merci. Toi qui étais, toi qui es, toi qui ne changes pas. Et toi qui vis à jamais. Que ton nom seul soit élevé au-dessus de tous les noms. Que ton nom seul soit exalté maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Contact ou pour tout conseil, n'hésitez pas d'appeler à ces deux numéros. D'abord le 677 61 93 77 et aussi le 696 36 25 40. Je reprends. 677 61 93 77 ou aussi le 696 36 25 40. Vous pouvez précéder des 237 ces numéros si vous appelez hors du Cameroun. Connectez-vous aussi sur le site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot,
pasteurrodrigue.com. Collectez-vous sur ce site et téléchargez tout ce qui vous intéresse gratuitement. Que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. À bientôt. Et que toute la gloire, les honneurs, les acclamations reviennent uniquement au Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen.